J'ai eu l'occasion, je crois, de le dire déjà ici, il n'y a pas si longtemps, la Bible, ce n'est pas les bisounours. Pour un bon nombre d'athées et d'incroyants, voire même, hélas, pour certains croyants, la religion, c'est un instrument totalitaire, d'oppression et de conquête. Pour d'autres, incroyants ou croyants même, toujours, hélas, c'est de la mièvrerie, c'est gnangnan, c'est aimer votre prochain, attendez l'autre joue, donner aux bonnes œuvres. Bref, c'est de la morale, de la gentillesse, voire de l'angélisme. Le texte de Nahum que j'ai lu tout à l'heure démontre que c'est quand même très différent. La Bible ne ferme pas les yeux devant les réalités du monde, même les plus choquantes. En relisant ces passages, j'ai songé, et vous allez vous en douter, à deux films, Alexandre Nevsky d'Eisenstein et Ran de Kurosawa. Fracas des armes, les massacres d'enfants, les galopades, le sang qui gicle, la ville en flammes. Un prédicateur, même occasionnel, doit aussi affronter ce genre de texte. Et il faut l'affronter en essayant d'y trouver quelque chose d'évangélique, de réconfortant. Bizarrement, le nom de l'auteur, prophète Nahum, ça signifie « le consoler ». Vous avez remarqué qu'à un moment, l'auteur demande « où seront les consolateurs ?» Je vais essayer d'aller dans ce sens et de les trouver, ces consolateurs. D'abord, avec un petit rappel historique, puis en voyant en quoi Ninive a pu encourir la colère de l'Éternel, et enfin en étudiant dans le texte même, en cherchant où pouvaient se trouver les moyens d'échapper au désastre qui a frappé la ville. Un petit rappel historique, donc, si vous vous souvenez de vos études secondaires, Ninive fut la dernière capitale de l'Empire assyrien, puissant empire, remontant au deuxième millénaire, au temps d'Amourabi. Le roi d'Assyrie, Assurbanipal, a construit à Ninive une fabuleuse bibliothèque où on a retrouvé 25 000 tablettes gravées de caractères cunéiformes. La ville devait être gigantesque puisque un autre livre de la Bible, le livre de Jonas, nous dit que celui-ci, Jonas, a mis 3 jours pour la traverser à pied. C'est peut-être un peu exagéré. De façon générale, d'ailleurs, le livre de Jonas n'est pas très crédible puisque si on croit Jonas, Ninive a été convertie en un éclair, alors que Nahum nous dit qu'ils ne sont pas convertis du tout, ils sont restés très méchants. Nahum, en effet, évoque, pas très précisément, les turpitudes et la fidélité de la ville à la déesse Astarté ou Ishtar, qui est une déesse pourtant sympathique, hein, c'est la déesse de la fécondité et de la sexualité. Mais c'était aussi un empire cruel et conquérant, comme tout empire. Il paraît que ce sont les Assyriens qui ont inventé l'usage de la terreur comme arme de guerre. Ninive, donc, est tombée en 612 avant Jésus-Christ, sous les coups du roi de Babylone. Alors, le récit de Nahum, dont je vous ai lu une bonne partie, c'est une prophétie. Il a été écrit avant. C'est un des rares textes du Premier Testament qu'il est donc facile de dater, puisque l'auteur, donc, dans un passage que je n'ai pas lu, évoque un fait antérieur, la prise de Thèbes en Égypte, hein, par le roi d'Assyrie, Assurbanipal, en 667. Donc c'est forcément entre 667 et 612 avant Jésus-Christ que Nahum a écrit et qu'il a appelé sur Ninive le sort funeste qui fut celui de Thèbes. On peut noter quelques ironies de l'histoire. Donc c'est l'Assyrien Assurbanipal qui a conquis Thèbes, mais avec ses alliés. Parmi ses alliés, il y avait Manassé, roi de Juda. Donc un peu de géopolitique. Le jeu des alliances a changé entre les deux, puisque l'auteur, Nahum, qui est juif, dénonce les méfaits de Ninive, qui est l'ancien allié de son roi. Puis, j'ai fini par apprendre son nom à celui-là, Nabopolassar, c'est le roi de Babylone, c'est celui qui a pris Ninive en 612, portant ainsi le dernier coup à l'Empire assyrien. Le fils et successeur de Nabopolassar, celui-là il est plus connu, Nabucodonosor, Nabucco pour les intimes et les amateurs d'opéra, lui prendra Jérusalem en 587, donc 25 ans après la chute de Ninive seulement. Vous voyez, ça se précipite. Nabucodonosor a détruit le temple de Salomon, déporté les élites juives à Babylone, Et encore un peu plus tard, on s'égare un peu, mais ce n'est pas si lointain, Babylone, à son tour, tombera sous les coups des Perses en 539. Et Cyrus autorisera les Juifs à rentrer en Judée. Tout ça s'est passé donc en à peine plus d'un siècle. Les empires sont mortels. Voilà déjà une première morale consolatrice qu'on peut tirer de ce texte. Face aux tyrannies, il y a toujours l'espoir d'une délivrance. Encore une petite leçon historique, moins souriante, que l'on peut en tirer. Il est vivement déconseillé d'aller visiter les ruines de Ninive aujourd'hui. C'est en Syrie, bien entendu, c'est à côté de Mossoul. Éternelle folie guerrière des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à Ninive? Bon, ce n'est pas l'Éternel qui a détruit lui-même Ninive comme il avait détruit en des temps mythologiques Sodome et Gomorre. Ce sont des armes humaines qui ont remporté la victoire ici. Nahum, néanmoins, attribue ces faits à la colère divine. Il n'est pas très explicite quant au péché des Assyriens. Ce sont plutôt des imprécations contre la prostituée qui a servicé les nations par ses débauches et ses sortilèges, une ville sanguinaire pleine de fraudes et d'escroqueries. Et puis il y a le culte d'Astarté, péché absolu pour un juif monothéiste. Alors, nous ne sommes pas polythéistes, nous n'adorons pas d'idoles, nous ne risquons pas la colère de l'Éternel. Quoique, quand j'étais au catéchisme il y a des années, pièce à droite en sortant, le pasteur Marshall nous disait « Je vais vous montrer une idole. » mon porte-monnaie, ma cassette, ça c'est une idole. » Chaque année, 3000 vies humaines de SDF au moins, qui meurent dans nos rues, sont sacrifiées en France sur les autels d'idoles plus cruels qu'Astarté, qui en ont équilibre budgétaire, redressement de la France. C'est ainsi que parlent nos nouveaux sacrificateurs. Revenons à Ninive. Ninive a fauté, mais nous peut-être aussi. Elle s'est enfermée, préparant ses défenses. Elle a fait primer le pouvoir économique et commercial sur les valeurs humaines dans une version pervertie de ses pouvoirs. Les Ninivites, pour faire allusion au texte du Deutéronome, ont dû ramasser les grains, les raisins, les olives tombées au lieu de les laisser aux migrants, aux veuves et aux orphelins. En nous rapportant au symbole biblique habituel, on peut peut-être y voir un peu plus clair. L'eau, par exemple. L'eau est nécessaire à la vie, bien sûr, surtout dans ces régions. Ninive la stocke dans ses réservoirs, c'est dit dans le texte, hein, au lieu de la laisser couler comme un fleuve. On connaît l'importance du fleuve Jourdain dans la Bible. Donc c'est le fleuve qui est valorisé, pas le réservoir. Ces réservoirs se mettent à fuir. À Ninive, on a thésaurisé en vain l'eau, la vie, les ressources humaines. C'est que le mal vient de l'intérieur de Ninive. Ses habitants sont comparés à des lions, des sauterelles. Les sauterelles, souvenez du livre de l'Exode, bien entendu, c'est une punition, un fléau qui vient frapper l'Égypte, mais de l'extérieur. Ici, les sauterelles, ce sont les Assyriens eux-mêmes, des commis voyageurs, dit Nahum, des commerçants avides. Même raisonnement pour les lions. Les Assyriens sont identifiés à des lions qui emplissent leur tanière du fruit de leurs rapines et de viande dépecée pour nourrir leurs petits, petits que l'épée va dévorer. L'épée, dans la Bible, c'est une image de la parole de Dieu qui tranche, qui sépare le bien du mal. Ninive est victime de sa propre méchanceté, de son égoïsme, de ses débauches. Ce sort nous guette-t-il aussi? Heureusement, Nahum évoque quelques possibilités de salut, en décrivant, si vous avez bien écouté, dans les derniers versets, quelques manques, quelques absences, et donc, à contrario, quelques solutions. Nahum nous dit que les bergers sont assoupis, les vaillants capitaines sont bien installés, une autre traduction dit sont immobiles, et le peuple est dispersé. C'est cette situation qui a causé la catastrophe. Le berger, le vaillant capitaine et le rassembleur sont défaillants. Alors, le berger, j'ai pas besoin d'insister beaucoup sur l'importance de l'image du berger dans la Bible. Évidemment, tout cela a été rédigé dans des civilisations agraires de petit élevage. Mais le berger, c'est l'image de la générosité, de l'altruisme. Le berger, c'est celui qui s'occupe des plus petits, de la brebis qu'il faut aller chercher. David gardait les moutons. Ce sont des bergers qui arrivent les premiers à la crèche pour saluer l'enfant Jésus. Et voilà le lien que je vous annonçais. Je vous ai lu dans l'Évangile selon Jean la parabole du bon berger, Jésus, qui donne sa vie pour les brebis, au contraire du mercenaire qui, lui, ne travaille que pour l'argent. Le vaillant capitaine, alors c'est l'homme d'action. On peut évidemment s'étonner de voir dans un texte biblique vanter les mérites d'un militaire, mais ces nations sont en guerre. Hein. Mais le capitaine vaillant, c'est aussi celui qui sait voir plus loin que la réalité immédiate. Celui qui connaît la stratégie, c'est son métier, qui a le pouvoir d'agir, d'aller de l'avant, de façon dynamique. Comme exemple de militaire, de capitaine, nous avons le centurion qui comprend soudain que l'homme que l'on vient de crucifier est le Fils de Dieu. Pierre et Paul auront eux-mêmes l'occasion de rencontrer de tels centurions, ce qui leur sera bénéfique. Corneille ouvrira l'esprit de Pierre. Oui, ça m'a toujours amusé, Pierre Corneille. Enfin bon, c'est le centurion Corneille qui est l'apôtre Pierre. Julius sauvera Paul lors du naufrage au large de Malte, dont Vincent Hubach a parlé ici il y a une quinzaine de jours. Et il faut être rassemblé. Tous nos politiciens prônent le rassemblement de leur famille politique. J'espère que tout le monde a bien compris qu'il ne s'agit pas de rassemblement, mais d'un ralliement autour d'eux-mêmes. Ce n'est pas un rassemblement. Vous avez noté que Nahum parle de sergent recruteur, pareil à des essaims de criquets qui se posent sur les haies et disparaissent au premier rayon de soleil. Ce n'est pas un vrai rassemblement non plus. Sergent recruteur, ce n'est pas un rassembleur. C'est un rameuteur. Le rassembleur, ne peut être que Dieu. Celui qui nous demande de le suivre, mais pas pour son profit, au contraire, pour nous entraider, pour vaincre l'égoïsme, la peur, l'immobilisme. C'est Jésus qui rassemble les brebis, même celles qui sont d'un autre enclos, comme dans le passage que je vous ai lu. Nahum nous rappelle quand même que l'Éternel est un Dieu jaloux. La formule est fréquente dans la Bible. Elle est censée effrayer celui qui serait tenté de ne pas suivre Dieu. On peut peut-être voir cette expression « l'Éternel est un Dieu jaloux » sous un autre angle. Dieu est jaloux, certes, comme quelqu'un qui aime d'un amour fou, total. Et c'est nous qui l'aime. Pour conclure, c'est donc l'Éternel qui nous rassemble, l'Éternel qui est bon. Nahum le rappelle aussi, bizarrement, quand on lit ce qu'il écrit après. « Ninive est détruite. « Quiconque apprend de ces nouvelles applaudit, dit le prophète. Qui la plaindra ? Demande-t-il. Eh bien Dieu, qui est là, toujours, du côté des victimes, des assassinés, des pauvres, malgré leurs fautes et leurs péchés. Où chercherai-je des consolateurs ? Demande le prophète. Il le demande d'une façon un peu rhétorique, mais il y a une réponse. C'est de nous qu'il s'agit. Il n'y pensait peut-être pas, Nahum. Mais c'est nous. 2600 ans plus tard, qui devons être des consolateurs, compatissants, bien éveillés, rassemblés, prêts à agir, pleins de bienveillance et de l'amour du prochain. Amen.